Chapitre 16. Les équipes du FBI attendirent que la rue où se trouvait la résidence de Branwick soit vide pour la bloquer aux deux extrémités. Les occupants de la maison de gauche étaient absents, et ceux de la maison de droite avaient été discrètement évacués et mis en sécurité afin d'éviter les risques inutiles. Un peu plus haut dans la rue, sur le trottoir opposé, Silverman et Harrow observaient la scène dans la pénombre, postés sous un arbre derrière la camionnette anonyme prêtée par le service des stupéfiants. À l'arrière du véhicule, patientaient six membres du groupe d'intervention, harnachés de la tête aux pieds, en attendant de passer à l'action. Dans le silence de la nuit, les murmures des feuilles d'arbres sous l'effet d'une légère brise venue de l'ouest prenaient des airs de conspiration. Des lumières étaient allumées dans quasiment toutes les pièces du rez-de-chaussée de la maison placées sous surveillance, sans qu'aucune activité filtre à travers les rideaux ouverts. À l'étage, les chambres étaient pour la plupart plongées dans l'obscurité. Deux agents en civil, portant de minces gilets pare-balles sous leurs chemises, s'approchèrent de la maison Branwick. Ils avançaient tête nue, rien n'indiquait leur appartenance à la police. Le premier grimpa les quatre marches du perron, entre les lions de pierre, et se glissa le long du mur en direction de la fenêtre la plus proche de la porte d'entrée. Son collègue se dirigea de l'autre côté, poussa une porte en fer et disparut dans le jardin. Le premier agent posa sur la vitre de la fenêtre une ventouse de 5 cm équipée d'un micro ultrasensible. Le boîtier électronique accroché à sa ceinture, de la taille d'un paquet de cigarettes, était conçu pour filtrer les bruits parasites, VMC, réfrigérateurs et autres appareils électriques, afin de mieux laisser passer les sons liés aux activités humaines que le boîtier se chargeait ensuite de transmettre au smartphone de Silverman. Ce dernier écouta pendant 2 minutes sans distinguer le moindre souffle. S'il y avait quelqu'un dans la maison, il devait être congelé. L'agent qui explorait le jardin réapparut sur le seuil de la porte en fer. Il s'accroupit au pied d'une haie, quasiment invisible dans le noir avec sa tenue sombre. Le téléphone portable de Harrow vibra. Il décrocha, écouta son correspondant et raccrocha. « Il y a un corps sans vie dans la cuisine, » dit-il à Silverman, avant de s'approcher de la camionnette et de donner l'ordre aux hommes de l'unité d'intervention d'investir la maison. Chaque jour apportait à Nathan Silverman de nouvelles informations qui venaient renforcer la théorie à laquelle il s'était toujours refusé de croire. Même si Jane et son fils se trouvaient en danger, elle était clairement mêlée à une sombre affaire. Silverman appréciait Jane, il la comprenait et lui faisait confiance, mais seulement jusqu'à un certain point.